L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, on va étudier pendant quelques instants qui est Jésus. Et puis je pourrais poser la question à chaque personne ici et vous demander qui est Jésus pour vous. Et j'aurais sûrement des réponses différentes. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? La chose la plus importante, c'est de savoir qu'il est le Seigneur. Amen. Le Seigneur de nos vies. Qu'on est passé du monde des ténèbres et on est maintenant dans la lumière. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va juste commencer avec un mot de prière. On va remettre ce temps et on va s'attendre que le Seigneur travaille dans nos cœurs, qu'il nous donne son instruction pour qu'on puisse grandir et avancer. Amen. Père éternel, on vient devant toi. Seigneur Dieu, on est rassemblés ici en ton nom. Seigneur, on veut aujourd'hui élever le nom de Jésus dans cette place. On veut te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit qui est ici, qui travaille dans les cœurs, qui change des vies aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu pour la révélation de qui tu es. Et pour nos amis sur l'Internet, à la radio, on prie également que cette révélation, Seigneur, puisse être à eux aujourd'hui, qu'ils puissent le recevoir profondément dans leur cœur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous vos Bibles ce matin? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on parle du Seigneur, puisqu'on est déjà, la majorité d'entre nous, nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous avons déjà une révélation de qui Dieu est, qui est le Seigneur Jésus, on a des sentiments d'amour. Quand on parle du Seigneur Jésus, on ressent son amour, on aime Dieu, et c'est merveilleux, il ne faut jamais mettre ça de côté. Il faut toujours conserver l'amour qu'on a pour le Seigneur. Mais parfois, avec les années, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on connaît le Seigneur et des fois, l'amour diminue un peu. Et des fois, ça devient juste intellectuel. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse vraiment l'aimer pour qui il est. Il veut qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, mais connaissant vraiment qui il est. Et ce matin, c'est ça qu'on va voir. Qui est Jésus? Et il y a des choses que vous allez entendre, certainement, vous allez dire, bien ça, je connais ça, et je suis content que vous connaissiez ces choses-là. Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres choses peut-être que vous allez apprendre, et ce matin, ce que le Seigneur veut faire, il veut faire exploser la révélation de qui Jésus est dans vos vies. Il veut que ça puisse exploser, que vous puissiez voir le Seigneur avec les yeux de la foi et le voir tellement grand, tellement puissant, tellement merveilleux. C'est ça qu'on va voir ensemble. Vous savez, dans le monde, il y a toutes sortes d'opinions. Si on parle avec les gens sur la rue et puis on leur demande « Qui est Jésus pour vous? » Il y a des gens qui vont dire « Bien, c'est un enseignant, un très grand enseignant. » D'autres vont dire « Bien, c'est un prophète. » Il y a toutes sortes d'explications, des opinions diverses. Mais ce qu'on veut voir, c'est pas l'opinion des hommes. Ce que nous voulons voir ce matin, c'est ce que la Bible dit. Amen. Ce que la Bible dit concernant Jésus. Dans Jean 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta parole. » Ta parole est la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Amen. La parole de Dieu est la vérité. Donc, si on veut savoir qui est Jésus, on peut s'acheter des livres. Hein? Il y a toutes sortes de livres qui circulent sur Jésus. Je sais que chez Walmart, pendant un temps, ils vendaient un livre qui disait que Jésus était marié, il avait eu des enfants. Il y a toutes sortes d'histoires ridicules à propos de Jésus. Mais si nous voulons connaître la vérité sur Jésus-Christ, ce que nous devons faire, c'est plonger nos regards dans la parole. La parole est la vérité. Et les hommes peuvent changer d'opinion. Un jour, ils disent une chose, le lendemain, ils disent d'autres choses. Mais la parole de Dieu est éternelle, elle ne change jamais. Et puis, depuis 2000 ans, nous croyons tous la même chose concernant Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on va voir ensemble, la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit. Mais avant même d'aller très loin dans l'enseignement de la parole de Dieu, ce matin, ce que j'avais à cœur vous dire, c'est juste voir les raisons pourquoi on devrait s'intéresser à connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Bien, dans Philippiens chapitre 2, j'aimerais ça vous inviter ce matin à aller avec moi dans vos Bibles, dans Philippiens chapitre 2. Vous allez voir, comme on va étudier la parole de Dieu, je vais essayer d'aller lentement. Je sais des fois, je peux prêcher rapidement, mais ce matin, que Dieu m'aide. Je vais aller lentement, Je veux vous aider à vraiment recevoir ces passages, que ces passages soient pas juste des textes qu'on lit, mais que vous puissiez prendre ces versets-là et peut-être même les prendre en note. Si vous n'avez pas pris votre stylo, votre carnet avec vous, peut-être à la maison, vous allez vouloir réécouter la vidéo pour reprendre en note les versets. Parce que c'est important pour vous de connaître ces choses concernant Jésus-Christ. Combien d'entre vous, vous êtes un enfant de Dieu? Combien de vous ici, là, vous êtes un enfant de Dieu? Bien, vous devriez connaître des choses sur le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est sûr, on peut dire, bien, je le connais dans mon cœur. Ça, c'est merveilleux. Faut le connaître dans notre cœur. C'est sûr. Mais aussi, faut connaître sa parole. Faut connaître ces versets qui nous parlent de Jésus. Et si vous dites, ah, ben, moi, j'ai pas de mémoire, je me rappelle jamais des versets. Ben, c'est pour ça que nous avons des stylos et des carnets. Hallelujah! On peut écrire ces versets-là. Et par la suite, savez-vous, moi, là, je suis coupable d'avoir barbouillé partout dans ma Bible. Et c'est correct. La parole de Dieu est sainte, mais pas sainte à un tel point où on n'a pas le droit d'écrire dedans. Hein, il y a des gens qui disent, oh, je veux pas écrire dans la Bible, elle est sainte. Oui, la Bible est sainte. On sait que les Écritures sont saintes, mais notre Bible, là, c'est une copie, puis on a le droit d'écrire dedans. Okay? Donc, écrivez dans vos Bibles. Si vous avez besoin, écrivez des notes à la fin. Jésus-Christ, là, écrivez les versets que je vais vous donner. Vous pouvez faire ça. Et puis là, quand vous avez besoin, vous pouvez vous référer à ces versets-là. C'est très bon de faire ça, parce que Dieu nous appelle. Quand on vient à l'église, là, vous savez, moi, quand j'étais jeune, depuis toujours, je vais à l'église. Hein, quand j'étais enceinte de ma mère, j'allais à l'église. Donc, j'ai toujours été à l'église. Mais pour moi, une des choses, je disais, quand on va à l'église, là, on devrait grandir. Savez-vous ça? On devrait avoir grandi. Il y a quelque chose qu'on devrait recevoir de la parole de Dieu et je devrais être capable de grandir et pendant la semaine, aller encore plus profondément dans ma foi avec le Seigneur. Donc, si vous êtes à l'église ici avec nous pour la première fois, attendez-vous de grandir si vous voulez. Hein? Parce qu'on peut être des auditeurs oubliés puis vraiment penser à d'autres choses, penser à votre Big Mac, là. Mais si vous voulez vraiment grandir dans les voies de Dieu, faut vraiment se concentrer pendant quelques instants ici parce que c'est de Dieu. Amen. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Ici, ça nous dit une chose merveilleuse concernant Jésus. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Juste ça, là, c'est assez pour nous de dire, hey, je devrais étudier la personne de Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ça dit ici, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pouvez-vous le confesser ce matin? Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est merveilleux de pouvoir le faire pendant notre vivant. Il y a des gens qui vont réaliser trop tard, mais aujourd'hui, on peut réaliser. Jésus-Christ est Seigneur et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à cette révélation-là. Une chose, Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vais vous inviter à aller dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 3. Amen. Il est écrit, « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Amen. Il y a des gens peut-être incrédules qui peuvent dire, bien, moi, je crois pas en Jésus, et là, voilà, je vais dire, Jésus est Seigneur, j'y crois pas. Comprenez-vous? Non, quand on lit ce texte-là, ça dit, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. En d'autres mots, nul ne peut le dire avec foi et croire, là, à moins que ce soit Saint-Esprit qui a accordé la révélation. Donc, si vous dites, je crois que Jésus est Seigneur, ça veut dire que le Saint-Esprit s'est révélé à vous. Donc, soyez encouragés de ça. Le Saint-Esprit vous a révélé cette chose, le voile a été enlevé et vous avez pu voir au moins une partie de la grandeur de Jésus-Christ. Mais ce matin, peut-être vous allez voir encore plusieurs autres choses. Dans l'Apocalypse 19, verset 16 maintenant, Apocalypse 19, verset 16, ça nous parle encore de Jésus et pourquoi on devrait l'étudier. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Le roi des rois. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Nous sommes une délégation royale parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous faisons partie de la famille royale de Dieu. Et nous servons le roi des rois. Amen. Marc 12, 29 maintenant. Pourquoi vous dites, ben pourquoi c'est important de savoir que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Bien, vous allez voir, on va bâtir sur ces versets, vous allez voir plein de choses. Marc 12, 29, il est écrit, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc Jésus a dit de sa bouche que le Seigneur Dieu, il y a un seul Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Dites l'unique Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et son nom est Jésus. On vient de le lire. Aussi, on va aller ensemble dans Exode, chapitre 3, verset 14. Pourquoi devrions-nous étudier la personne de Jésus-Christ? On est en train de répondre en ce moment à cette question-là. Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Exode, immédiatement après le livre de la Genèse. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Là, on va aller ensemble dans Jean chapitre 8 et le verset 58. Jean chapitre 8 et le verset 58. Ce matin, on est en train de bâtir des choses en vous, dans vos cœurs. Pendant quelques temps, peut-être vous dites, ben, je ne comprends pas tout. Vous allez comprendre. Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, je suis. Donc, on comprend que Jésus est le grand Je suis, éternel, il est, de toute éternité, je suis. C'est pas je vais devenir, je suis. Jésus est le grand je suis. Il est Dieu, jamais eu de commencement, jamais eu de fin. Et on va voir ça dans la parole de Dieu. Amen, on va bâtir avec la parole. Maintenant, Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30 à 33. Jean 10, verset 30 à 33. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Quand Jésus disait des choses, Jésus n'était pas toujours acclamé par les foules. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Avez-vous remarqué, si les Juifs reconnaissaient que Jésus, quand il disait, « Moi et le Père, nous sommes un », Jésus est en train de se déclarer Dieu. Ce matin, ce que nous allons voir ensemble, nous allons voir des grandes vérités de la parole de Dieu que nous recevons par révélation ce matin. C'est pas simplement une chose intellectuelle, parce que si vous essayez de vous approcher de Dieu d'une façon juste intellectuelle, vous allez avoir de la misère, parce que notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu est tellement grand et c'est impossible de limiter la grandeur de notre Dieu et le mettre dans une petite boîte et le décortiquer et tout comprendre. On doit prendre certaines choses et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à mon cœur. Ben, j'ai besoin de voir avec les yeux de la foi. Amen. Là, on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi cette étude? Pourquoi creuser ainsi dans la personne de Jésus-Christ? Et je vais vous donner ce matin certaines choses, juste des raisons pourquoi nous devons étudier la personne de Jésus-Christ. Premièrement, dans Osée 4.6, vous n'êtes pas obligé d'aller dans chaque verset parce que ça risque de prendre du temps, mais je vous donne les références et je vais vous lire. Première raison, c'est afin d'être préservé de la destruction. Le Seigneur veut vous donner sa connaissance, enfant de Dieu. Des fois, dans nos églises, on veut vivre la présence de Dieu et ça, c'est absolument merveilleux. Gloire à Dieu. Mais savez-vous, on ne peut pas grandir simplement sur des expériences. Nous avons besoin de la connaissance révélée de Dieu pour marcher dans la vie chrétienne. Donc, on dit oui à l'Esprit de Dieu et on dit également oui à la parole de Dieu. Il faut avoir l'unité des deux. Et c'est justement le cœur de cette maison, c'est vous aider à recevoir la connaissance de Dieu. Sans cette connaissance, la Bible nous dit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, ce matin, quand vous êtes là, vous faites dire, « Je veux recevoir la connaissance de Dieu. » Amen. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et qu'est-ce que Dieu fait quand on a cette connaissance biblique? On est protégé. Nous sommes protégés. Donc, ça devrait nous bénir, ça. Amen. Amen. T'sais, je connais la parole de Dieu, je suis protégé de l'erreur. Deuxième raison, afin d'être certain d'avoir la vie éternelle. Dieu veut que vous puissiez être vraiment certain aujourd'hui d'avoir la vie éternelle. On va aller ensemble dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Il est écrit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vais juste le relire ici. Remarquez bien. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dites-vous amen à ça.
Amen.
Et que cette vie est dans son Fils. Donc, vous devez connaître son Fils. Verset 12, celui, ça c'est vous et moi, celui qui a le Fils a la vie. Avez-vous le Fils ce matin? Amen, bien vous faites dire, j'ai la vie, gloire à Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pour ça que l'ennemi travaille très très fort pour vous empêcher de voir la gloire du Fils de Dieu. Parce qu'il veut que vous puissiez servir un autre Dieu. Verset 13, je vous écris ces choses. Quelle chose? Ces choses qu'on va lire ensemble, ces versets de la parole de Dieu. Afin que vous sachiez que vous avez, pas peut-être un jour vous allez l'avoir, mais que vous sachiez, aujourd'hui même, là, que vous avez, remarquez le temps, que vous avez la vie éternelle. Moi, je sais que j'ai la vie éternelle. Amen. Je suis convaincu à 100 000%. C'est vrai. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez, voyez-vous, c'est au présent, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je crois au nom du Fils de Dieu et je sais que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, deuxième chose, la deuxième raison, c'était afin de savoir si on a la vie éternelle. Bien, moi, je sais que j'ai la vie éternelle à cause de ce verset-là. Afin de se purifier par la parole de faux raisonnements. Vous pourrez étudier le texte dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Ça nous parle ici qu'on peut être purifié par l'eau de la parole. Donc, ce qu'on va voir ensemble, la parole de Dieu va nous purifier et enlever toutes les fausses notions qu'on peut avoir de Dieu. Amen. Donc, si on veut changer notre façon de penser, faut lire la Bible et se soumettre à ce que Dieu dit. Et là, les mensonges disparaissent comme ça. Gloire à Dieu. Afin de marcher également, quatrième point, afin de marcher dans la lumière. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître qui est Jésus, parce que Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. On va aller ensemble dans Jean chapitre 1. Versets 1 à 5. Je réalise ce matin, je vous donne beaucoup de versets. Mais c'est important. C'est important. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Parce que vous savez, le Seigneur nous a appelés au début de l'année, la parole de l'Éternel pour cette maison. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, Dieu nous appelle à briller. Amen.
Amen.
On peut briller dans les médias. Alléluia. Gloire à Dieu, on peut briller dans nos groupes vie, inviter des personnes qui connaissent pas le Seigneur et briller et resplendir l'amour de Dieu, que les gens puissent vraiment goûter à ça. On peut briller à notre travail, dans nos ministères divers, briller, gloire à Dieu. Mais comment briller si on ne connaît pas notre Jésus, vraiment? Dieu nous appelle à le connaître véritablement, pour briller pour lui. Jean 1, chapitre 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle, dans la parole toujours, en elle, était la vie. Est-ce qu'on a vu que Jésus, le Fils de Dieu, était la vie? Qu'on avait la vie dans le Fils de Dieu. Avez-vous remarqué ça tantôt? Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voulez marcher dans la lumière? Vous devez marcher dans la vie, vous devez marcher en Jésus-Christ. Verset 5, la lumière luit dans les ténèbres. Ça, c'est notre appel à vécu. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Comme on connaît qui est Jésus-Christ véritablement, on va briller. Parce que nous sommes aujourd'hui la lumière du monde. Parce que le Seigneur habite en nous. Amen. Gloire à Dieu. Là, j'ai bâti plusieurs versets ce matin. Et je réalise que certains d'entre vous, peut-être, vous dites, « Oh, il y a beaucoup de versets, est-ce que je vais pouvoir rester concentré? Est-ce que je vais trop être tenté par ma poutine ou ma grosse pizza? Est-ce que je vais pouvoir rester avec le pasteur? » Là, j'ai un verset pour vous. Les personnes qui se posent des questions. 2 Corinthiens 10, verset 5. Ça dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça veut dire, vous savez, des fois on va à l'église et on reçoit un message qu'on connaît déjà. Il y a des temps où c'est comme, ah, ben ça c'est un message, ça me fait du bien, ça me bâtit dans la foi, alléluia, gloire à Dieu. Mais des fois, on a besoin de prendre une décision et dire, ce matin, il n'y a pas un démon de l'enfer qui va m'empêcher de recevoir la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité, comme elle est prêchée, elle va descendre dans mon cœur. Je vais la recevoir. Tout ce qui n'est pas de Dieu en moi va disparaître. Et au nom de Jésus, je vais grandir dans ses voies et je vais recevoir la connaissance de Dieu. Mais ceci arrive seulement si vous prenez une décision maintenant. Je vous lis des décrets. Si vous croyez ça, si vous dites, moi là, je suis pas venu perdre mon temps à l'église ce matin. Je suis pas venu perdre mon temps, je veux grandir. Bien là, vous avez trois résolutions que je vais vous donner. Première chose, je vais vous inviter à répéter après moi, je suis attentif au nom de Jésus. Bon, ben c'est bien, vous avez pris la décision, je vais être attentif. Ça veut dire, là, vous venez de dire à votre corps, là, à votre chair, qui veut penser au Big Mac, là. Non, je penserai pas à d'autres choses. Ce matin, là, le pasteur est là, moi je suis physiquement dans l'église et je vais rester là dans l'église. Des fois les gens quittent l'église, sont là, leur corps est là, mais ils sont plus là. Savez-vous? Moi je le sais ça. Mais si vous êtes là, restez avec moi. Alléluia. OK, super, c'est que là, vous êtes attentif. Deuxième chose, je reçois la nourriture spirituelle dont j'ai besoin aujourd'hui. Que si vous êtes d'accord, dites amen. Je reçois la nourriture spirituel dont j'ai besoin. Au nom de Jésus. Amen. Là, croyez-vous ce que vous venez de dire? Amen. Good. Troisième chose. Je ne me ferai pas voler par des distractions. Au nom de Jésus. Je ne me ferai pas voler par des distractions. Au nom de Jésus. Eh bien, je suis content que vous avez dit ça. C'est merveilleux. Vous savez comment il fonctionne l'ennemi? Il veut vous distraire. Il veut vous faire penser à plein d'affaires. Et je le sais, ça, parce que j'ai grandi dans l'église. J'ai déjà écouté des prédications, puis j'étais pas là. Je suis coupable. Mais ce matin, on a pris la décision ensemble. Là, on est sérieux. On veut vraiment plonger dans la parole de Dieu, et vous allez faire avec moi. Bon, pourquoi? Pourquoi faire ça? Sachez que votre connaissance de Jésus est la chose la plus importante dans votre vie. C'est la chose la plus importante dans votre vie. On peut apprendre plein de choses concernant Dieu dans la Bible. On peut apprendre des principes de foi. On peut étudier sur plein de sujets, plein de thèmes. C'est bon de se nourrir puis d'apprendre plein de choses. Mais la pierre angulaire, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus. La chose la plus importante, numéro un. C'est pour ça que je vous ai fait décréter ces choses-là. Parce que ce que l'ennemi veut faire, pendant que vous êtes là en train d'écouter, il veut voler la semence de la parole. C'est pour ça, là, vous êtes vigilant, vous êtes assis, comme ça, là, et je reçois la parole. Diable, là, tu ne me voleras pas. Je ne passerai pas mon temps à penser à d'autres choses. Amen, gloire à Dieu. Éphésiens 2:20, ça dit, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ça veut dire, on bâtit tout sur Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 2, l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire que c'est super important. C'est super important. Et une autre chose, dans 1 Pierre, verset 3, verset 15, chapitre 3, verset 15 plutôt, ce texte-là, ça dit, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt, dites toujours prêt, à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive sans espoir et qui vous pose la question, mais toi, tu as de l'espoir, pourquoi là? Et là, on doit être capable de leur répondre. Si vous dites, ben moi, je ne sais pas trop comment répondre, ben vous êtes à bonne place. Parce que là, vous pouvez écrire ces versets que je vais vous donner, vous allez apprendre des choses sur Jésus-Christ, vous allez voir sa grandeur, et là, vous allez savoir comment répondre. Parce que la parole de Dieu va être déposée en vous. Mais savez-vous, quand Dieu nous dit, briller, là, comme on a vu, marcher dans la lumière, qui peut prendre la décision? C'est pas moi, je peux pas décider à votre place que vous allez briller. Mais vous pouvez prendre la décision. Je suis responsable si je prends la parole de Dieu, la dépose dans mon cœur et si je grandis. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et on est aussi en même temps, je réalise, dans une époque, dans le monde chrétien, où il y a beaucoup de paresse spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction? Ça veut dire on passe pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui me disent « Ah, ben j'ai pas beaucoup de temps ». Mais si on a beaucoup de temps pour d'autres choses, mais pas pour la parole de Dieu, on doit aujourd'hui décider « Je serai plus paresseux. J'ai besoin de passer du temps dans la parole. J'ai besoin de connaître la parole. » Amen. Je dis pas ça pour vous condamner. Je vous dis ça par amour parce que comme vous connaissez la parole, vous serez protégés et vous allez marcher avec une sécurité dans votre cœur. Et en plus, vous allez être une source de bénédiction pour les gens. Les gens vont venir vers vous. Et en plus, remarquez bien ça, le Seigneur va se servir de vous encore plus parce qu'il va savoir que vous avez un dépôt de la parole. Et quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « J'ai besoin d'espoir », vous allez savoir comment leur donner cet espoir-là. Amen? Donc, c'est bénéfique. Gloire à Dieu. Je prends beaucoup de temps, je sais, on établit des fondements, mais c'est important. Là, êtes-vous prêt à plonger la chose la plus importante concernant Jésus-Christ, la connaissance qu'on a besoin sur lui? Êtes-vous prêts ensemble? Vous avez votre snorkeler, là, tout ça, là? Vous êtes prêts, là? On va plonger. Allons maintenant dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2. Là, on va commencer ensemble. On va monter nos manches, là. Le verset que je vais vous donner, c'est un verset, un passage clé. Un passage clé pour votre vie chrétienne et pour votre compréhension de qui Jésus est pour toute votre vie chrétienne. Si vous comprenez ces passages-là, ce passage que je vais vous donner, vous serez en mesure d'interpréter le Nouveau Testament avec paix. Vous allez être dans la paix, vous allez bien comprendre les choses. Si vous comprenez bien le texte que je vais vous lire, dites « Alléluia ». Gloire à Dieu. Bon, vous êtes tous rendus là, Philippiens chapitre 2. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ou dans second 21, c'est dit, lui qui est de condition divine, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Là, je viens de vous lire ce texte-là et peut-être vous dites, j'ai rien compris. Et gloire à Dieu parce que je suis là pour vous l'expliquer. On va lire maintenant dans Parole de vie. OK, dans Parole de vie, une version plus simple. C'est dit, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, il est mort sur une croix. Peut-être là, vous avez plus compris. Je vous explique en mes mots maintenant. Dieu voyait la condition de l'humanité. L'humanité était là dans le péché et Dieu savait qu'il ne pouvait pas être uni avec le péché. Il connaissait la situation grave de l'humanité. Les hommes avaient été rebelles contre Dieu et il y avait une séparation entre Dieu et les hommes. C'était une séparation à cause du péché. Mais là, Dieu, dans son amour, il voulait sauver l'humanité. Dieu, dans son amour, il voulait sauver les hommes. Mais il savait qu'il n'y avait aucun homme sur la terre qui pouvait payer la dette de péché. Vous savez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les gens ne pouvaient pas revenir à la vie sans que Dieu se contredise, et Dieu ne se contredira jamais. La loi de Dieu disait, le salaire du péché, c'est la mort. Et le jour qu'Adam a pris le fruit défendu, la mort spirituelle s'est installée en lui, et tous ses descendants sont devenus des personnes, des pécheurs. Sauf que même, comme on a dit souvent, nos enfants, on n'a pas besoin de leur enseigner comment faire des mauvais coups. Ils savent tout à fait naturellement, parce qu'ils ont en eux la tâche originelle du péché. Cette tâche-là est transmise comme ça. Mais Dieu voyait que l'état de l'humanité était comme ça. Les hommes étaient tous pécheurs. Et vous savez que Dieu avait délégué de l'autorité à qui? À l'être humain, à un homme sur la terre, dans Genèse, verset 1, 26-27. L'autorité avait été donnée à l'être humain. Et là, on comprend en même temps que là, ça devait être un homme qui devait recevoir la sentence du coupable. C'est un homme qui pouvait payer la dette de péché. Personne d'autre, pas d'autres créatures. Dieu, le Saint-Esprit, ne pouvait pas venir parce que ça prenait un corps humain qui était pour venir sur cette terre, marcher sur la terre, vivre une vie parfaite, sans péché, pour ensuite recevoir la punition des pécheurs. Comprenez-vous? Vous me suivez jusqu'à présent? Bon. Là, ici, on voit que Dieu, dans son amour, a décidé qu'il était pour s'incarner dans la personne de Jésus-Christ et venir marcher sur la terre et vivre cette vie parfaite. Là, c'est pour ça qu'on peut lire ce texte-là. Je vais vous relire dans Philippiens, chapitre 2. Ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus qui était rempli d'humilité. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Soyez humbles comme Jésus. Lequel, existant en forme de Dieu ou lui de la condition divine, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Puis là, dans l'autre version qu'on a lue dans la parole de vie, c'est dit, il n'a pas cherché à la garder, garder sa divinité ou son égalité. Il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais, verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire toute sa gloire qu'il avait au ciel, le Fils de Dieu, sa gloire qu'il avait au ciel, il s'est dépouillé comme un manteau. Admettons, si vous pouvez imaginer le Seigneur Jésus vêtu de vêtements de gloire, il s'est dépouillé lui-même. Et puis, ça dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, quand Jésus marchait sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Et là, il marchait comme un simple homme. Ça veut dire, il n'était pas là en train de briller, les gens le voyaient sur la rue. « Ah, le Fils de Dieu! » Non, ce n'était pas du tout évident. Il marchait comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à qui? Au Père, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu, dans son amour, s'est incarné ici sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Il a marché sur la terre. Et là, imaginez, il a vécu toutes sortes de choses, il a vu plein de choses se produire, mais Jésus n'a jamais péché. Il a toujours marché dans la pureté, faisant toujours plaisir à son Père céleste. Et puis le Seigneur Jésus marchait là, il a reçu notre punition. Il a été crucifié sur une croix pour recevoir le paiement de ma dette, pour recevoir le paiement de votre dette. C'est ça que Jésus a fait. C'est ce chant que j'ai chanté ce matin. Peu importe les péchés que vous avez faits, le sang de Jésus purifie les péchés aujourd'hui. Mais ça ne pouvait pas être un homme pécheur qui payait la dette de l'humanité parce qu'il aurait payé pour sa propre dette, comprenez-vous? Ça prenait un homme pur, sans tache, et Jésus était cet homme. Dans Ésaïe 53, verset 2, en parlant de Jésus, c'est un passage prophétique qui nous parle de Jésus, ça dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus, en plus, tellement humble, il est venu juste dans un corps tout à fait ordinaire. Des fois, on peut voir des films de Jésus et s'imaginer, ah, ben, c'est une telle personne. Des fois, on va prendre un acteur puis on va dire, ah, ben, il faut que ce soit un bel homme. Mais Jésus, comment il était? Quelqu'un tout à fait ordinaire. Je vous relis, ça dit, il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, gloire à Dieu. Voyez ici, sauf que le Seigneur s'est incarné. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? C'est pour ça qu'on comprend aussi dans 2 Corinthiens 8, 9. Je vais vous lire dans la traduction King James en français. Il s'est dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. » Ça veut dire Jésus qui a quitté le ciel. Il était riche au ciel. Savez-vous qu'au ciel, c'est des rues pavées d'or. Il a quitté la gloire du ciel, lui qui était riche, et puis il s'est appauvri afin de vous enrichir. La Bible nous dit, waouh, pourquoi il aurait fait ça? Parce que Dieu aime les hommes. Il ne voulait pas nous laisser aller dans la perdition, mais Dieu voulait sauver chaque être humain de la terre. C'est pour ça que quand on chante le chant, il m'a choisi. Savez-vous qui Dieu a choisi? Tout le monde. Il a choisi tout le monde. Dieu veut sauver chaque personne de la terre. Et là, c'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as choisi, moi aussi je veux te choisir, je veux t'accepter, je veux te recevoir dans ma vie, je veux recevoir le pardon de mes péchés. Amen. Gloire à Dieu. On peut dire, wow, gloire à Dieu. Là, ce que je veux vous aider à comprendre, Jésus le Fils de Dieu, ça se réfère à Jésus dans sa divinité. Jésus le Fils de Dieu, ça se réfère à Jésus dans sa divinité. Quand nous lisons les textes dans la parole qui disent Jésus Fils de l'homme, ça se réfère à son humanité. C'est simple à comprendre, ça, n'est-ce pas? Comprenez, c'est pas trop compliqué. Fils de Dieu, se réfère à sa divinité. Fils de l'homme, se réfère à son humanité. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de mystérieux que la Bible nous dit. On va aller ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. Et je sais, ce matin, c'est peut-être plus compliqué pour vous. Je ne veux pas vous insulter non plus dans votre intelligence, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce matin, je veux juste vous rappeler, restez avec moi parce qu'il y a plusieurs versets, mais vous allez sortir de cette série enrichie. Connaissez ceci. Ce que vous recevez là, ça va vous servir pour toute votre vie. Vous allez grandir dans ces voies et vous allez dire, ah là, je lis tel passage en parole, je sais pourquoi ça dit ça. Là, je comprends. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 7 et 8. Il est écrit, l'apôtre Paul, il dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avant même la fondation du monde, dans 1 Pierre 1, 18 à 20, c'est dit, avait destiné pour notre gloire. » Ce mystère caché a été destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Avez-vous compris ici? Il y avait un mystère concernant la crucifixion. Sinon, s'ils savaient qu'il était en train de crucifier Dieu, le Messie, il ne l'aurait jamais fait. Hein? Mais ça dit, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, on va aller dans Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous aurez élevé, il parle ici, là, concernant sa crucifixion, quand vous aurez élevé, comment élevé? Sur une croix. Hein, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais pas, et que je ne fais rien de moi-même, même que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Avez-vous remarqué ce que je viens de lire? Le Fils de l'homme parle toujours en accord et selon les directives de son Père. Jésus, dans son humanité, il parlait, il représentait parfaitement le Père. Gloire à Dieu pour ça. Pourquoi pensez-vous? Jésus a servi de modèle. Quand on regarde sa vie, quand on voit la façon que Jésus parlait, même son baptême, savez-vous que Jésus a été baptisé? Mais pourquoi Jésus a eu besoin de se faire baptiser? Est-ce qu'il laissait une vieille vie de péché en arrière? Non. Non, certainement pas. Il a passé par les eaux du baptême pour nous servir de modèle, pour nous montrer le chemin qu'on devrait suivre. Amen. Par exemple, quand Jésus dit, ici c'est le Fils de l'homme qui parle, il dit, dans Jean 14, 28, « Le Père est plus grand que moi. » Ici, le Fils de l'homme parle. Il nous donne le modèle. Nous, on devrait toujours élever notre Père. Amen. « Le Père est plus grand que moi. » Ici, on comprend, Jésus parle en tant que Fils de l'homme. Amen. Et là, ce mystère caché concernant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ qu'on vient de lire ensemble, pour nous, l'enfant de Dieu, on peut dire, ben, « Gloire à Dieu. » Moi, j'ai reçu la révélation. Ce voile a été enlevé de mes yeux. Et aujourd'hui, je peux voir que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour me sauver de ma dette de péché. Si vous avez reçu cette révélation, et mes amis sur Internet, si vous avez reçu cette révélation, vous pouvez dire « Alléluia, gloire à Dieu ». Vous savez, il y a des gens qui sont à la recherche de Dieu, qui n'ont pas reçu cette révélation. Et aujourd'hui, vous faites partie de cette armée qui dit, la parole de Dieu dit vrai et je reçois au nom de Jésus. Amen. Là, on vient comprendre que Dieu s'est incarné sur la terre pour venir sauver l'humanité, pour payer la dette de péché. Une chose qu'on veut voir maintenant, on dit, ben là, si on veut aller plus loin, okay, on comprend ça, que Jésus s'est incarné. Fils de Dieu est descendu du ciel à la terre. Et là, qu'est-ce qu'on devrait comprendre sur lui? Quelle autre chose? Par où commencer dans cette étude? C'est une bonne question à se poser. Par où commencer? On va commencer au début. Amen. On va aller ensemble dans Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24. On ne va pas se promener partout sans ordre. On va commencer vraiment au début de la création pour retrouver notre Seigneur Jésus. Ésaïe 44, verset 24. Par où commencer? Ésaïe 44, 24. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. » Oh, c'est qui le Rédempteur? C'est Jésus. Dans Éphésiens 1, verset 7, ça dit qu'il est notre Rédempteur. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. » Remarquez bien. « Seul, j'ai déployé les cieux. » Seul, j'ai étendu la terre. Ici, ça vient nous dire que l'Éternel est le Créateur. Gloire à Dieu. Allons maintenant dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 23. Là, c'est un gros passage que je veux lire avec vous. Mais je suis tellement béni et heureux parce que vous m'avez dit que vous étiez là pour écouter tout au long. C'est-à-dire que là, on va lire ce texte-là. Ce matin, si vous avez remarqué, c'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Mais on va lire le texte ensemble, et là, vous allez voir tout au long plein de diamants, des choses tellement merveilleuses. Au début, j'étais là, oh, comment est-ce que je peux faire? Il ne faut pas que je donne trop de versets. J'ai tellement de choses à vous dire. Je pourrais passer des heures, il y a tellement de choses dans mon cœur. Il faut que je coupe mes notes puis je diminue. Mais là, je me suis permis le luxe de vous garder ce texte-là. Au complet. On va le lire ensemble. Hey, je me paye un luxe. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 23. Êtes-vous avec moi, là? Amen. Écoutez bien ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Êtes-vous les saints dans la lumière? Amen. Là, je veux le relire. C'est-à-dire qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Dites héritage. Héritage. Remarquez le contexte. Là, je vais vous garder ça dans votre tête, parce qu'on lit des textes dans leur contexte. C'est-à-dire capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si vous avez été pardonné de vos péchés, vous avez été sanctifié, mis à part pour le saint service de Dieu, vous êtes déclaré des saints. Amen. Verset 13. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Êtes-vous encore dans les ténèbres, enfants de Dieu? Non. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Moi, c'est là où c'est que j'habite. J'habite dans le royaume du Fils de son amour. Gloire à Dieu. J'ai été délivré des ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Je suis plus dans les ténèbres. Je marche pas dans la noirceur. J'essaie plus de trouver mon chemin. Je marche dans la lumière. Pourquoi? Parce que sa parole me guide, sa lumière, sa parole est la lumière sur mon sentier. Écoutez bien. Et en Éphésiens 2, 6, je donne une parenthèse, ça dit, en parlant de Jésus, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est ma position en Christ. Amen. Verset 14 de Colossiens 1. C'est-à-dire, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'ai été racheté. J'avais été vendu dans l'esclavage au péché, mais j'ai été racheté aujourd'hui et mes péchés ont été totalement effacés. Verset 15, il est l'image ou dans le grec, c'est-à-dire la représentation du Dieu invisible. Dieu le Père est invisible, ok, mais là, ça dit Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né? Je pensais qu'on venait de lire qui était le créateur, mais comment est-ce qu'il peut naître? Comment est-ce qu'on comprend ça? Le mot grec, c'est prototokos. Prototokos. Dites prototokos. Bon, ou si vous aimez mieux, numéro 44-16. Il est le premier-né de toute la création. Là, le texte. Vous savez, j'ai commencé à écrire des commentaires bibliques, commentant des versets de la parole de Dieu. Je vais vous lire mon commentaire. Je le trouve bon. Dans toute humilité. Non, mais c'est la sens, c'est la façon que j'aime le dire. Ça, je recommence. OK, dans toute humilité. Apprendre littéralement, est-ce que ça veut dire qu'il est le premier-né à apprendre littéralement? En fait, le titre, remarquez, c'est un titre. Le titre premier-né indique la prééminence d'une personne dans une famille qui veut dire l'héritier. OK? Avez-vous remarqué, on a parlé d'héritage au début. Ça nous parle qu'il est l'héritier. Premier-né, là, ça nous parle, ça indique la prééminence d'une personne dans une famille. Quelle famille, pensez-vous? La famille de Dieu, l'héritier. Êtes-vous co-héritier avec Christ? Ah! Gloire à Dieu. Ce titre s'applique bien à Christ dans son humanité. Lui qui a la prééminence sur tous les hommes. Nous retrouvons aussi le titre premier-né attribué à d'autres figures dans la Bible. Genèse 49, verset 3, qui se réfère à Ruben, et le psaume 89, verset 28, qui se réfère à David. Il y a plein de textes dans la parole où ce titre est employé concernant d'autres personnes. Mais dans le contexte ici, ça nous parle l'héritier et ça nous parle de Jésus-Christ à ce moment-là. Verset 16 maintenant. Écoutez bien ceci. Toujours en parlant de Jésus, c'est ça le contexte. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Là, verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Il est la tête du corps de l'Église. Il est notre tête. Amen. Il est le commencement. De quoi? On parle de l'Église. Il est le commencement de l'Église. Le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Le premier entre les morts. Savez-vous que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Il est le premier-né d'entre les morts. Gloire à Dieu. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Oh! Et là, j'aime un autre verset, Colossiens 2:9, qui nous dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ah, c'est tellement merveilleux. Quand on voit, si tu dis, « Ah, pasteur, est-ce que tu es en train de me perdre ici? » Non, vous êtes encore à EVQ. Vous n'êtes pas perdu. Là, j'essaie de décortiquer ça très lentement pour vous. Mais qu'est-ce qui est important de voir jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est que Jésus est le Créateur. C'est ça qu'on est en train de voir. OK? Vous aider. Verset 20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. La paix qu'on peut avoir avec Dieu, la paix qu'on peut avoir avec Dieu, c'est par lui, en parlant de Jésus. C'est par Jésus, par le sang de sa croix. Oh, on revoit encore ici que Jésus est mort sur la croix pour nous. On le revoit encore, c'est encore une confirmation. Mais pourquoi qu'il a fait ça? Verset 22, ça nous donne la réponse. Pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour nous? Verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Oh, ça veut dire, si j'ai fait des mauvais coups dans ma vie, si j'ai fait des péchés, le moment que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis j'ai dit, je te donne ma vie, et puis là j'ai demandé, pardonne-moi, là, j'ai zéro reproche. Dieu ne pourra jamais dire, ben, t'as fait telle ou telle chose. Non, Dieu a tout effacé. Il a mis mes fautes dans la mer de l'oubli. Le diable peut revenir pour m'attaquer puis dire, ben, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça. Oh, mais dans l'ordinateur de Dieu, Dieu a appuyé delete. Il a appuyé effacer. Tout est supprimé à cause du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a parfaitement lavé ma dette de péché. Parce qu'il a tout fait ça. Il est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour que je sois sauvé. C'est simple. C'est juste ça que ça veut dire. Pour vous faire paraître devant lui saint. Oh, j'ai pas d'infériorité. J'ai pas un sentiment d'infériorité. Quand je me présente devant Dieu dans la prière, je ne dis jamais, oh, Père, je suis un moins que rien. Des fois, on entend des chrétiens dire ça. Je suis un moins que rien. Oh, Seigneur, je sais, je suis indigne de venir prier. Oh, non. Je suis saint, irréprochable. Oh, il y en a qui vont dire, oh, ben, il est donc arrogant. Non, on dit dans le même texte, ayez les sentiments qui est en Jésus-Christ. L'humilité, c'est d'être en accord avec Dieu. Marcher dans l'humilité, c'est pas de dire d'autres choses. Quand on dit à notre tête, là, on fait à notre tête, on a notre opinion, puis on dit, mon opinion est meilleure que celle de Dieu, c'est là où on est arrogant. Mais quand on dit, oh Seigneur, il m'a totalement purifié, Je me présente dans la prière et je me présente comme étant un homme racheté, totalement purifié, vêtu de vêtements blancs, et je peux me présenter avec un sentiment que je suis digne. Je suis digne, pas en moi-même, pas parce que je l'ai mérité. Non, moi je méritais le salaire du péché, je méritais tout ça. Mais Dieu, dans son amour, m'a sauvé. Bon, ben si je suis sauvé et je suis lavé, je suis plus indigne, je suis rendu digne maintenant. Et c'est ça, c'est votre condition. Donc, vous priez au Seigneur, vous venez avec un cœur rempli d'amour, vous êtes dans une attitude de révérence, certainement, mais n'insultez jamais l'œuvre de la croix en disant « je suis un moins que rien ». Non, je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi, puis là, vous priez, je viens devant toi, puis je veux te remercier parce que tu m'as adopté dans ta famille. Oh, puis Dieu aime ses enfants. Savez-vous ça? Dieu veut chérir ses enfants. Il veut vous montrer comment il vous aime. Et ce matin, c'est ce qu'on est en train de voir. On est juste en train de voir ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il s'est incarné. Amen. Là, il y a un texte que je veux souligner. Apocalypse 3, verset 14. Des fois, on peut lire notre Bible. Et là, dépendamment de la traduction, on peut des fois être mélangé. Puis je veux vous donner ce matin un verset peut-être qui pourrait vous accrocher. Dans Apocalypse 3, verset 14, il est écrit... Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, ça nous parle de Jésus, le commencement de la création de Dieu dans Louis II. Mais cette traduction-là peut nous mélanger. Donc, faut aller voir d'autres versions parfois et aller voir dans le grec. Comment c'est vraiment dit? Mais dans Bible Second 21 et dans la Bible à la Colombe, c'est dit l'auteur de la création de Dieu. Est-ce que ça fait du sens avec ce qu'on vient de lire? L'auteur de la création de Dieu, vous êtes supposé dire oui. Amen. Dans la Bible du Semeur, c'est dit « celui qui a présidé à toute la création de Dieu ». Et vous allez vous rappeler que dans Ésaïe, c'est dit que Dieu a créé toute chose tout seul. Amen. Et dans Parole de vie et Français courant, c'est dit « il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé ». Pourquoi? Parce que Jésus est notre créateur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu m'a donné sa grâce, parce que je suis rendu à ma dernière page. Tout ce qu'on vient de voir, amen, alléluia, le pasteur a quasiment fini. Mais c'est important pour nous de connaître ces choses-là, enfants de Dieu, parce que ça nous protège. Puis si vous prenez ces versets-là, puis vous les connaissez dans leur contexte, vous savez, là, la clé, là, si vous voulez étudier la parole de Dieu, puis être sécure dans votre étude de la parole de Dieu, vous sentir à l'aise, bien, lisez la Bible dans son contexte. Dites contexte. Mais pas juste contexte, la partie lisez, c'est important aussi. Lisez la Bible. Amen. Il y a des gens qui me disent, ah, ben moi, pasteur, je lis tel livre de ce temps-ci, là. Oui, je veux lire la Bible, mais savez-vous pourquoi des fois on ne lit pas assez notre Bible? Parce que des fois, on la lit et on ne la comprend pas. Il y a bien des gens qui disent, ben je ne la comprends pas. Achetez-vous une version que vous allez comprendre. Ah, ce n'est pas une grande révélation que je vous donne ce matin. Une fois, j'étais dans une réunion, dans un groupe vie. Il y avait une chère sœur qui était là qui dit « Oh, prie pour moi, j'arrive pas à comprendre ma Bible. Oh oui, oui, on va prier pour toi. Oh oui, on va prier. » J'ai dit, un instant, j'ai dit, quelle version lis-tu? La Louis II. J'ai dit, est-ce que tu la comprends? Non. J'ai dit, ben prends Français courant. Ah. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine suivante, j'ai dit, on priera même pas là. On priera même pas pour ça. Lis la Français courant. La semaine prochaine, on va voir. Et là, la semaine d'après, elle dit, ben, je la comprends. Oh, wow! Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Lisez une version que vous allez comprendre. Et si vous dites, ouais, mais j'ai pas d'argent, au nom de Jésus, vous allez en avoir. Deuxièmement, allez sur Internet, vous faites plein de versions. Si des fois, il y a un texte, vous dites, je ne comprends pas. Mais savez-vous, il y a des multitudes de versions sur Internet. Ce matin, vous dites, ah, ben pasteur, là, tu me donnes des conseils trop pratiques. Ben oui, mais ça donne quoi aller à l'église puis juste tourner en rond? Dieu ne nous appelle pas à pas connaître notre Bible. Dieu veut que vous puissiez vraiment connaître sa parole, parce que quand vous connaissez sa parole... Oh, vous êtes comme, wow, on a soif. Le plus qu'on lit la Bible, le plus qu'on a le goût de la lire. Je vais vous dire ça. Si vous n'avez pas le goût de lire votre Bible, c'est parce que vous ne la lisez pas assez. Mais le moment là, que vous commencez à lire un petit peu, là, vous dites, oh, hey, un petit bijou ici. Oh mon Dieu, un autre bijou. Oh mon Dieu. Là, vous allez vous retrouver des heures et des heures dans la parole et vous allez triper. Je vous donne des conseils ce matin, là, très simple, parce qu'en 2013, on était appelés à briller. Mais brillons dans la vérité, brillons avec la parole de Dieu. Lisez votre Bible, soyez passionnés pour Jésus-Christ et sa parole. Amen. Je termine bientôt, par la grâce de Dieu. Bon, Et je pense que ce que je vais faire ici, je vais vous donner juste les titres qu'on va voir la semaine prochaine. Parce que vous en avez déjà reçu beaucoup. En parlant de mon sauveur Jésus, je peux juste vous dire, Jésus est notre sauveur. On vient de voir, on a vu une chose ce matin, une seule chose. Jésus est celui qui a créé tout ce qu'on voit. Le ciel, la terre, l'univers, tout ça, Jésus est le créateur. C'est ça qu'on vient de voir ce matin. J'ai pris 45 minutes pour vous dire que Jésus est le créateur. C'est ça que j'ai fait. C'est juste ça. C'est bon, j'aurais dû rester chez nous. Non, parce que si vous avez pris les versets en note, faites les déposer dans votre cœur, les laisser le Seigneur vous travailler et vous révéler la splendeur de qui il est. Là, une autre chose, je vous donne des versets que vous pouvez étudier à la maison. Ésaïe 43, verset 11 et Tite 2, 11 à 13, ça nous parle que Jésus est notre sauveur. Amen. Il est mon sauveur. On va le voir la semaine prochaine. Jésus est vainqueur même sur la mort. Amen. Jésus est ressuscité. On va voir des belles choses sur la résurrection la semaine prochaine. Amen. Jésus est le... Oh, je vais vous donner le verset. Jésus est vainqueur sur la mort. On va voir Actes 3, verset 15. Jean 2, 18 à 22. Luc 24, 39. 1 Corinthiens 15, 17. 1 Corinthiens 15, 45. Vous réécouterez la vidéo. Et Jésus est le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. Et là, l'application. Comment est-ce qu'on peut appliquer toute cette connaissance? On a déjà dit on va briller, mais je vais vous aider à appliquer. Jésus, s'il est le Créateur, ça veut dire qu'il peut vous réparer. Savez-vous, là, quand vous allez acheter un véhicule, vous achetez un véhicule GM, on va parler pour les Américains un matin, GM, General Motors, vous achetez un véhicule, on va dire une vieille auto du passé, Chevette. Connaissez ces belles Chevettes-là? Auto de luxe. Chevette, Chevrolet, GM. Mais dans le temps, bon, vous avez acheté votre Chevette, et là, il y a un défaut. Ben, vous n'allez pas chez Ford faire réparer l'auto. Vous allez chez GM, n'est-ce pas? Grande révélation. Je le sais, c'est dur à comprendre. Vous allez chez GM, et puis là, ils mettent leur petite patente là, sur leur système. Et, ah, oh, monsieur, c'est ça le problème. Et puis, ils réparent l'auto. Ben vous, si le Seigneur vous a créé, il connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaît tout sur vous. Donc, si vous êtes malade, ça veut dire qu'il peut vous guérir. Si vous êtes déprimé, il sait comment vous restaurer. Toutes ces choses-là, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, est capable d'intervenir et de nous réparer. De faire en sorte que les choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies, il est capable de faire en sorte que ces choses-là fonctionnent. Votre application de cette semaine, c'est juste de dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, je m'en viens au garage céleste. Je viens à toi aujourd'hui, puis je te laisse me transformer. Si Jésus est le Seigneur et le Sauveur, ça veut dire qu'il peut me sauver dans peu importe les situations de ma vie. Et si le Seigneur Jésus est le vainqueur sur la mort et le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il peut me donner la vie éternelle si je n'ai pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie. C'est merveilleux. On peut parler plein de choses que le Seigneur Jésus fait, mais nous devons le remettre à sa place et comprendre le Jésus que nous proclamons dans cette Église et que partout à travers le monde, que les gens élèvent le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Si on élève son nom, si on prêche Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul a dit, « Je n'ai rien savoir autre chez vous que Jésus et Jésus-Christ crucifié. » Si là, on parle constamment de Jésus, c'est parce qu'il est le grand « Je suis ». Il est le grand « Je suis » et on doit le remettre à sa place d'honneur dans nos cœurs. Il faut revenir parfois sur ces textes, peut-être qu'on connaît déjà, peut-être que non, mais on doit le sanctifier dans nos cœurs, comme la parole de Dieu nous dit. Et comment on fait ça? On grandit dans ses voies. Et là, on est des porte-parole dignes du Seigneur Jésus-Christ. Dignes dans le sens que quand quelqu'un est là, on n'a pas besoin de rougir parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, mais on peut être un dispensateur de la parole de Dieu et avec efficacité bien interpréter la parole de Dieu et bien la présenter. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va inviter l'équipe de la louange et je vais juste prier pour vous ce matin pendant que l'équipe de la louange s'avance. Seigneur Dieu, je veux te remercier ce matin pour ta sainte parole. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons de lire cette parole. Quand on considère que des hommes et des femmes qui doivent se cacher pour lire ta parole, quand on considère que dans d'autres nations, il y a des gens qui doivent se séparer une Bible pour lire des portions, et puis sont là, ils vont se partager une Bible. Ô Seigneur, nous avons tous une Bible entre nos mains. Seigneur, je veux te remercier pour cette parole que nous avons, pour ce grand privilège que nous avons d'avoir la vérité entre nos mains. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs, que chaque personne puisse vraiment être reconnaissant du fait qu'on a une Bible. Ô Seigneur, Dieu, qu'on puisse jamais passer à côté de cette Bible et ne pas la lire. Ô Seigneur, je prie que cette année, en 2013, tu puisses déposer, que tu puisses leur donner, chaque frère et sœur dans cette église, un feu pour ta parole, un feu dévorant pour ta maison et pour ta parole. Ô Seigneur Dieu, que cette parole puisse vraiment porter fruit dans cette maison. Ô Seigneur, je veux te remercier pour les portes nouvelles que tu vas donner à cette maison spirituelle, que nous pourrons proclamer très haut, Seigneur Dieu, ta grandeur, que nous pourrons proclamer très haut la gloire de ta majesté. Ô Seigneur Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand je suis, le créateur du ciel et de la terre. Et on est rassemblés aujourd'hui parce que nous t'aimons et nous voulons apprendre à te connaître davantage. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour la révélation de qui tu es dans la vie de chaque frère et chaque sœur. On a prié au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Je vais vous inviter ce matin, juste prenez votre Bible dans vos mains, on va élever notre épée, pas l'équipe de la louange, ils n'ont pas le choix, non pas, mais vous, enfants de Dieu, levez vos mains et on va faire ça ici, comme un signe que 2013, c'est l'année de la parole de Dieu dans ma vie. C'est l'année où la parole de Dieu est ma seule autorité, la parole de Dieu est mon autorité. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je dis, je vais croire ta parole. Je vais chérir ta parole dans mon cœur comme jamais auparavant. L'année 2013, c'est l'année où je marche dans ta lumière, dans la vérité de ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole dans nos cœurs. Merci pour les transformations que je vais vivre dans ta parole. Et merci pour le changement que tu vas effectuer autour de moi, dans ma famille. Ô Seigneur Dieu, je prie maintenant pour ceux qui ont des épouses, des maris, des enfants, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des parents qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau. Nous prions aujourd'hui, nous prions Seigneur, que la parole de Dieu puisse être manifestée dans nos vies à un tel point que nos proches vont avoir soif de ta présence. Ils vont avoir soif de la vérité dans laquelle nous sommes, la vérité de ta parole. Ô Seigneur Jésus, je te remercie que tu nous donnes à tous et chacun la vision pour nos proches, que tout le monde dans nos parentés vont être sauvés et nés de nouveau. Ils vont passer par l'expérience de la nouvelle naissance en 2013. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans cette maison. Je te remercie pour le temps qu'on a eu dans ta parole. Je te remercie pour ta protection divine aussi qui est sur chaque personne, que cette parole ne sera pas volée comme ils ont décrété de leur bouche. Cette parole va porter du fruit. Au nom de Jésus, cette parole est descendue et elle demeure et elle va te glorifier dans ta vie, dans leur vie. On a prié au nom de Jésus et je décrète sur leur tête ton cœur pour eux, ton cœur qui est le shalom, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Gardez Mathilde et moi en prière pendant qu'on est au Texas et on se revoit dimanche prochain. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.